Session de philosophie par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 5 juillet 96, première conférence.
Nous arrivons à la dernière journée. Alors, je vous rappelle la démarche que nous avons faite. Montrer le problème de l'âme au début de l'histoire de la philosophie européenne, grecque. Et le problème central de la philosophie. Et d'une certaine manière, ce problème devrait revenir, lui, aussi de manière centrale, si toute la philosophie moderne est axée sur la personne. Et c'est vrai, on cherche à découvrir ce qu'est la personne. Et on voit, cela est assez net, que dans la philosophie classique, dite thomiste, avec des modalités différentes, le problème de la personne a été assez négligé. Et on ne peut reprendre le sens de la personne que si on découvre il y a dans l'homme une âme spirituelle. Tout le problème de la personne se fonde sur la nature. Il n'y a pas d'opposition entre nature humaine qui implique l'âme et le corps et la personne qui montre la manière dont cette nature existe. Et c'est la fameuse question du qui est-ce, qu'est-ce que c'est que l'homme, et la manière du comment l'homme existe-t-il. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Il a une âme spirituelle et un corps. Comment l'homme existe-t-il? Il existe à la manière d'une personne. Deux grands problèmes qui se tiennent. Je ne peux comprendre vraiment ce que c'est que la personne, le comment, que si j'analyse en voyant ce qu'est l'homme. Donc, normalement, avec le problème de la personne, le problème de l'âme, revient le problème central de toute la philosophie. Je crois que c'est important de bien voir cela au plan philosophique. Le premier problème consiste à voir l'âme est-elle un mythe? L'âme est-elle un logos? Je l'ai répété plusieurs fois pour que vous compreniez, puisque ça c'est le langage moderne. Moutos et le logos, c'est la grande interrogation de Heidegger. Et on comprend très bien. Alors, première question, l'âme existe-t-elle? Comment l'atteindre? Comment je connais mon âme? Ensuite, cette connaissance de l'âme me permet-elle de saisir que l'âme peut exister indépendamment du corps? C'est le second problème. Ce n'est pas suffisant de regarder que l'âme existe. Il faut regarder aussi comment existe-t-elle. Est-ce que mon âme existe simplement comme un principe que l'intelligence saisit en analysant réduction. Et qu'elle saisit ce principe propre de la vie humaine, où l'âme existe en possédant en elle la possibilité d'exister par elle-même. Et là, ce problème qu'on a essayé hier de préciser, l'âme n'est pas du tout un principe logique. L'âme n'est pas du tout un principe propre, saisi par l'intelligence, mais qui, de fait, n'existe pas par lui-même, par elle-même. Il faut comprendre qu'elle est un principe propre de vie. Elle est un principe propre de vie immanente et capable de se séparer du corps. Oui, ça c'est très important. Capable d'exister par elle-même et pour elle-même. Et c'est pour cela qu'il fallait comprendre le lien qui existe entre le corps et l'âme. Est-ce que le corps est pour l'âme ou est-ce que l'âme est pour le corps? Ça n'a l'air de rien, cette petite interrogation, mais elle est capitale. Si l'âme existe pour le corps, l'âme ne peut pas subsister par elle-même. Si au contraire, le corps existe pour l'âme, peut-être que l'âme peut subsister indépendamment du corps. Il faut au moins se poser la question. Et parce que c'est un peu la charnière. On découvre l'âme comme source, comme principe. On la découvre comme étant ce par quoi je découvre le caractère spécifique de la nature humaine. Et donc, ce qui structure la personne humaine. Et je me pose la question, ce principe, comment se présente-t-il à moi? Est-ce que ce principe est capable de subsister par lui-même? Est-ce que ce principe existe par lui-même? Oui, c'est un très gros problème qui, au plan théologique, je dis bien qu'au plan théologique, est très important. Parce que comment l'âme peut-elle être créée par Dieu tout en subsistant par elle-même? Si on est très attentif, il n'y a aucune opposition. Parce que Dieu peut créer des principes subsistants qui sont cause avec Dieu de leur exister. Donc, ils sont à la fois dépendants radicalement de Dieu et ils sont à la fois source de leur propre existence. Il n'y a pas de contradiction là-dessus. C'est deux points de vue différents. Mon âme est créée par Dieu, ça, je ne l'ai pas encore dit. Nous allons essayer de le voir aujourd'hui. Mon âme est créée par Dieu. Et n'a pas en elle-même de quoi exister. Indépendamment du corps. Elle peut exister indépendamment du corps. Comment existe-t-elle indépendamment du corps? Cela m'échappe, puisque je n'ai aucune expérience de cela. Mais je ferai une expérience très curieuse après ma mort. On se se reposant dans le tombeau, dans un petit coffre, mais sans curieux comme regard. Et je verrai tout le monde qui pleure devant ce cadavre. Alors je comprendrai qu'il est très précieux puisque tout le monde pleure. C'est vrai, regarder son corps de l'extérieur, ça doit être assez curieux. C'est comme quand on regarde la Terre de la Lune. Il faut être cosmonaute pour ça. Brave cosmonaute. On quittera notre corps, on quittera cette petite planète. Puis on ira dans un lieu mystérieux qu'on n'a pas encore visité. On n'aura plus besoin de maison, plus besoin de travail, plus besoin de... On sera des contemplatifs purs. Absolument purs. Et on dira qu'on a été des imbéciles de perdre du temps à un tas de choses alors qu'on pouvait déjà contempler. C'est très curieux cette expérience. Si on se rend compte de l'autre côté, on en reparlera, ça, oui. Ce sera le complément de la session. Il y a un complément magnifique, parce qu'à ce moment-là, on aura l'expérience d'une âme séparée du corps. Or, pour que le cours soit parfait, que la session soit parfaite, il faut avoir cette expérience. On ne l'a pas encore. Et on l'aura. J'en suis sûr. Même si je ne sais pas très bien comment, on l'aura. Mon âme peut subsister indépendamment du corps. Ça, je peux voir ça. Vous voyez, je vois l'aurore. L'aurore d'une expérience nouvelle. La grande expérience que j'aurai au moment de ma mort. Et d'une certaine manière, ce sera extraordinairement intéressant. Les gens pleureront, et moi, je dirais, enfin la contemplation pure de Dieu. Je suis libre de tout le reste. Alors, je dirai des petits bonjours à ceux qui pleurent, pour dire de pleurer. Un jour aussi, je serai là, et on se retrouvera éternellement. Et on fera des sessions sur l'âme séparée dans le ciel. Ce sera très extraordinaire. Je vous annonce ça sans être prophète. C'est ça. Parce que c'est une chose qui est inscrite en nous. Même philosophiquement, c'est inscrit en nous. Alors, c'est ici que ce principe qui est l'âme, source de ma vie, peut subsister indépendamment du corps, parce que c'est par mon âme que j'existe. C'est mon âme qui, informant mon corps, faisant de mon corps un corps vivant, un corps qui existe, c'est par mon âme que j'existe. Et c'est par mon âme que j'existe. Mon âme à tout ce qu'il faut pour exister par elle-même, subsister par elle-même, et donc d'exister indépendamment du corps et de tout puiser en elle, et dans la mesure où je découvre créé par Dieu, de découvrir que cette âme qui subsiste par elle-même, subsiste par elle-même grâce au Créateur. Donc elle subsiste par elle-même, elle a cette qualité de subsister par elle-même et de subsister grâce au Créateur. Mon âme, dans la mesure où je saisis qu'elle peut subsister par elle-même, je peux, au plan philosophique, comprendre que mon âme spirituel ne vient pas de mes parents. Elle ne peut pas venir de mes parents. Parce que la créature ne peut pas être source d'un autre être au plan spirituel, d'un être qui est au-delà du devenir, qui est un être spirituel. Dieu seul peut créer un être spirituel au-delà du devenir, parce que mon activité est toujours liée au devenir, au sens. Je ne peux pas agir directement sur l'esprit, mais j'agis sur l'esprit par la matière, par le devenir. Donc je peux modifier un être, mais je ne peux pas le créer, un être spirituel. Il ne peut être créé que par Dieu. Alors je vois à ce moment-là que si mon âme subsiste par elle-même, donc elle peut subsister indépendamment du corps. Mon âme dépend directement de Dieu. Et à la fois, je dois dire que mon âme est créée par Dieu. Et pour pouvoir dire ça, il faut avoir découvert l'existence de Dieu. C'est sûr. Il faut avoir découvert que Dieu seul, par la création, touche l'être, et que seule l'action créatrice touche l'être directement. Quand j'agis, moi, j'agis toujours sur le devenir d'un être, sur sa croissance, sur son conditionnement. Par là, j'atteins la réalité. Mais je n'atteins pas directement dans son être. Alors là, c'est tout le problème de l'acte créateur de Dieu. Je ne peux que le signaler ici, parce que c'est vraiment un autre problème. Je constate que mon âme existe. Je constate qu'elle a cette capacité de subsister par elle-même, indépendamment du corps. Et je constate en même temps qu'elle ne peut être créée que par Dieu. Parce que l'homme ne peut jamais agir directement sur l'être. Il faut réfléchir quelques minutes là-dessus. Vous pouvez modifier votre manière de vivre, mais vous ne pouvez pas augmenter votre être. Quelquefois, vous auriez envie, mais vous ne pouvez pas. Notre être est au-delà de l'action des causes secondes. Les causes secondes ne peuvent pas toucher directement mon être. Alors, la question maintenant, c'est de voir comment un être qui subsiste par soi est un être qui, de fait, est immortel. Et il faut bien voir la succession de ces problèmes. Parce que si on ne voit pas cette succession, on ne peut pas saisir le nœud du raisonnement. Alors, avant d'entrer dedans, je regarde ce que Thomas d'Aquin nous dit sur la question de l'immortalité de l'âme humaine. L'âme est-elle corruptible? Si elle n'est pas corruptible, elle est immortelle. On ne dit pas qu'elle est éternelle, mais elle est immortelle. C'est-à-dire qu'elle ne connaît pas la mort. Ce qui connaît la mort, c'est tout ce qui est corruptible. Alors, je vais aller très vite. De la bonté divine, une nature intellectuelle et une vie impérissable. Et voici le raisonnement de Thomas d'Aquin. L'âme humaine, dont nous affirmons qu'elle est un principe intelligent, doit être incorruptible. Vous voyez donc, l'incorruptibilité repose sur le fait qu'elle est un principe intelligent pour Thomas d'Aquin. Or, une réalité subsistante ne peut être engendrée ou corrompue de la seconde manière, c'est-à-dire parce qu'un autre être est engendré ou se corrompt. Parce que toute réalité peut se corrompre soit à cause de sa nature propre, soit par l'effet d'une cause extérieure. Donc, c'est les deux manières pour une réalité de se corrompre, ou par sa nature propre, elle a un germe de corruption. Mon corps peut se corrompre par lui-même. Se corrompre par elle-même. Ou bien, comme l'effet d'une cause extérieure. Or, une réalité subsistante ne peut être engendrée ou corrompue que de la seconde manière, c'est-à-dire parce qu'un autre être est engendré ou se corrompt. Génération et corruption conviennent à une chose de la manière dont lui convient l'être, lequel est acquis par l'une et perdu par l'autre. La chose acquise, l'être convient par soi, ne peut être engendré ou corrompu qu'en raison de sa propre nature. On a vu que l'âme est bête, n'est pas subsistante par nature, mais seulement l'âme humaine. Aussi, l'âme des bêtes est-elle détruite avec le corps. Et au Moyen-Âge, on parlait de l'âme des bêtes. Il y avait l'âme spirituelle pour l'homme et toute vie impliquait une âme. Aujourd'hui, faut un petit peu attention, parce que le mot âme a tout un contexte religieux lié à l'homme. Vous voyez, est-ce que le chien a une âme? Pour Thomas d'Aquin, oui, mais il a une âme de bête, c'est-à-dire une âme corruptible, qui ne peut pas subsister par elle-même. Humaine. selon l'opinion de certains, il faudrait encore ajouter qu'elle est incorruptible. Il n'y a en effet de corruption que dans les êtres où il y a passage d'un contraire à un autre. Génération et corruption sont des passages de certains états.
Pas en elle de principe contraire.
qu'il a de plus fort. Et parce que cette réalité... Love. l'âme est intemporelle. Dire que mon âme est au-delà de la mort. Je peux dire que mon âme a cette possibilité, mais je n'ai pas l'expérience. Et donc je reste en face d'une affirmation, d'une réalité qui en elle-même ne connaît pas et ne peut pas connaître la corruption. Voilà ce que je peux dire au plan analyse philosophique. Pour affirmer que mon âme est immortelle, je crois qu'il faut, au plan philosophique, regarder le problème de la création. C'est-à-dire affirmer que mon âme est créée directement par Dieu. Et que mon âme créée directement par Dieu dans l'embryon. Mon âme peut, et non seulement peut, mais doit continuer de subsister parce que elle est dans les mains de Dieu directement. Et donc, mon âme ne pourrait disparaître que si Dieu voulait qu'elle soit anéantie. Donc, elle est remise entre les mains du Créateur. Vous voyez donc, et ceci c'est très important, vous voyez donc que tous les philosophes qui nient l'existence de Dieu nient par le fait même l'existence d'une âme incorruptible. Puisque je ne peux affirmer l'incorruptibilité de l'âme qu'à cause que mon âme est créée directement par Dieu. Je crois que c'est ce que nous devons dire au plan philosophique. C'est remis entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui est le gardien de mon âme. Il est gardien de mon âme par et dans sa sagesse de créateur. Je suis le fruit le plus merveilleux de la création. Toutes les autres réalités corruptibles, à un moment donné, disparaîtront. Même notre univers. Toutes les réalités corruptibles, à un moment donné, disparaîtront. Seules, parmi les réalités que j'expérimente, que je connais, seule l'âme humaine est incorruptible, au-delà de toute corruption, et donc dépendante entièrement de Dieu. parce que Dieu a créé l'âme humaine en l'aimant pour elle-même. Dieu ne peut pas détruire son œuvre, l'annihiler. Et donc, l'âme humaine est incorruptible et intemporelle et immortelle. Vous voyez donc que philosophiquement, je dis que mon âme est incorruptible. De fait, yeah. réfléchir sur le fait que ma vie est une vie végétative, une vie intelligible, intellectuelle, que j'ai la capacité de contempler. À partir de là, j'induis l'âme comme source de vie spirituelle, comme vie végétative substantielle. Et je peux préciser que mon âme est vraiment source propre de ma vie. Que mon âme subsiste en elle-même. Elle est au-delà de la corruption. Il n'y a pas de germe de corruption dans mon âme. Il n'y a pas de germe de corruption dans mon âme parce que justement, elle est au-delà de tous les contraires. Mon âme n'étant pas liée à la matière, existant d'une manière indépendante de la matière, tout en informant le corps, mon âme est donc incorruptible. Ça, le philosophe, dans son analyse philosophique, peut l'affirmer. Si mon âme est incorruptible, je veux dire qu'elle ne connaît pas la mort. Mais comment mon âme continue de vivre indépendamment de mon corps? Cela, au plan philosophique, je ne connais pas, puisque je n'ai pas d'expérience de mon âme séparée de mon corps. Mais si je découvre, au plan philosophique, que mon âme spirituelle ne peut être que créée par Dieu et qu'elle ne peut pas provenir de la procréation, qu'elle est au-delà de tout le capital génétique des parents. Elle a en elle quelque chose radical qui ne dépend pas des parents. Que mon âme est donc première dans l'ordre de la vie, source. Mon âme est nécessairement créée par Dieu. Et si mon âme est nécessairement créée par Dieu, étant incorruptible, elle est immortelle si celui qui l'a créée ne veut pas la détruire. Or, je peux affirmer que mon âme créée par Dieu, comme un principe de vie aimé par la sagesse de Dieu pour lui-même. Dieu aime l'âme humaine pour elle-même. Dieu, en la créant, s'engage à ne pas l'anéantir. Ce serait contraire à sa sagesse. Et donc, puisque c'est Dieu et sa source propre comme créateur, et qu'en elle-même, elle n'a pas de principe de corruptibilité, je peux affirmer tout de suite, dans un jugement de sagesse, mon âme est immortelle. Ceci est un jugement et qui découvre l'acte créateur de Dieu est un acte de sagesse. Et que Dieu, créant l'âme humaine dans un embryon, s'engage comme père à soutenir, aider cet être. Parce qu'il est le père de cet être qui est spirituel et donc qui peut avoir une finalité qui dépasse complètement tout l'univers. Une finalité spirituelle, une finalité qui est une contemplation. Il y a dans le cœur de l'homme un désir d'aller toujours plus loin dans la vérité. Alors Dieu aurait pu laisser l'homme dans cette soif. Si de fait Dieu avait créé l'homme uniquement dans un ordre naturel, et de fait Dieu n'a jamais créé l'homme uniquement dans un ordre naturel, tout de suite il avait ajouté à la nature la grâce de justice originelle avant le péché, la grâce chrétienne après le péché. Et par la grâce reçue dans l'âme, j'ai une nouvelle vision de l'âme qui n'est philosophique, qui est chrétienne. Le chrétien regarde l'âme humaine comme une réalité créée par Dieu, capable de recevoir de Dieu la grâce. Et la grâce, c'est ce complément gratuite de surabondance que Dieu donne comme père à l'âme humaine. Et l'âme humaine est donc par l'homme transfigurée, transformée, puisque par la grâce, la nature humaine est changée, transfigurée. Et l'âme humaine est appelée à vivre la vie d'enfant de Dieu. Et ceci me permet de comprendre une nouvelle capacité de l'âme humaine. Elle est capax dei. Elle est capable d'être unie directement et immédiatement à Dieu par le Christ, par la grâce. Et elle sait qu'elle est faite pour voir Dieu face à face. Qu'elle ne sera parfaitement heureuse que quand elle verra Dieu face à face dans la vision béatifique. Alors là, vous avez le dernier regard sur l'âme humaine. Et vous comprenez que l'âme humaine a cette capacité divine d'être transformée par la grâce, divinisée par la grâce, et devenir enfant de Dieu. Mon âme humaine n'est pas détruite par la grâce. Elle est transformée du dedans pour faire que par la grâce reçue directement dans mon âme et dans ce qu'il y a de plus spirituel, mon âme, à ce moment-là, connaît une noblesse nouvelle. Elle est engendrée à la vie divine. Et elle connaît, par la grâce, le mystère de la très sainte Trinité, le mystère de Jésus. Et cela, le philosophe ne peut pas l'atteindre par lui-même. Le philosophe peut l'entendre. S'il a des amis chrétiens, il peut entendre cela et comprendre qu'il y a là un mystère nouveau qui échappe à son regard.